Le Mag du bien-être avec Diane.
Bonjour et bienvenue à vous dans votre chronique bien-être. Je suis Diane de la chaîne YouTube Diane Expérience et chaque semaine, je vous apporte de nouvelles idées et astuces pour vous sentir le mieux possible dans votre vie. Pour moi, les expériences sont une source d'apprentissage incroyable. Et c'est pour cette raison que je vous parlerai de mes expériences au cours de cet instant ensemble, pour que vous puissiez y puiser l'inspiration et être libre d'être qui vous êtes vraiment. Aujourd'hui, nous allons parler d'amour. D'amour avec un grand A. À force de côtoyer plein de personnes, partout, de milieux très différents, de professions très différentes ou d'âges différents, j'ai eu envie de vous faire part de mes réflexions quant à ma façon de voir l'amour et de concevoir le « couple », entre guillemets. Parce que pendant longtemps, j'avais une image assez figée de l'amour, de l'apparence et du comportement qu'aurait mon partenaire. Pendant longtemps, je me suis construite une image mentale de ce que je pensais être mon partenaire idéal. Des sortes de critères à cocher comme une sorte de garantie sans laquelle la relation ne pourrait pas marcher. Pendant longtemps, j'ai été influencée par mes lectures, les films d'amour que je regardais, les magazines féminins, mon entourage, les couples que je voyais. Pendant longtemps, j'ai ignoré la définition de l'amour qui vraiment correspondait aux attentes de mon cœur. Évidemment, on a toutes et toutes une définition très très différente de l'amour, mais c'est ça qui est riche et qui est très beau. L'amour, ce n'est pas seulement dans un couple. Ce n'est pas seulement entre un homme et une femme, ça peut très bien être deux femmes, deux hommes. L'amour, c'est aussi l'amour que l'on porte à un animal, l'amour que l'on porte à ses enfants, à sa famille, ou parfois l'amour que l'on peut ressentir pour ses amis. L'amour va vraiment prendre des formes très différentes et vient nous nourrir intensément, mais aussi avec beaucoup de légèreté. Ce qui est surprenant, mais nous allons revenir là-dessus dans un instant, vous allez voir. Avant, j'aimerais faire un aparté, car on confond parfois l'amour avec le sentiment de devoir sauver quelqu'un, on confond l'amour avec la reconnaissance que quelqu'un peut nous apporter, ou encore on peut confondre l'amour avec un mal d'amour de soi-même à soi-même et on saute devant la première personne qui accepte de nous aimer. Comme je vous le disais, à force de côtoyer plein de personnes et plein de couples, j'ai pu observer plusieurs choses et établir quelques bases saines pour une relation. Ces quelques bases peuvent permettre de prendre du recul sur sa propre situation et trouver le courage de reconnaître quand quelque chose ne va pas. Nous allons donc détailler aujourd'hui 7 bases ensemble. Mais juste avant ça, j'aimerais vous partager une réflexion que j'aime beaucoup sur les couples déséquilibrés. On peut schématiser un couple déséquilibré par 1 plus 1 égale moins 1. C'est-à-dire que dans l'affaire, une des deux personnes perd de l'énergie. Elle donne beaucoup, parfois jusqu'à s'épuiser, ne plus avoir de temps pour ses propres projets, ou même perdre du poids, et être en mauvaise santé physique, par exemple. Un couple déséquilibré, c'est aussi 1 plus 1 égale 2. Avec cette équation-là, on montre le couple qui n'existe plus que par cette notion de couple, de duo, qui s'oublie au passage en tant qu'individu. On peut retrouver ici des comportements de personnes extrêmement jalouses, parfois, qui ne savent plus faire la moindre chose par elles-mêmes, seules. Le couple est devenu leur manière d'exister dans ce monde. Un couple équilibré pourrait être schématisé par 1 plus 1 égale 3. Je suis toi, tu es moi, nous sommes deux personnes accomplies individuellement et nous sommes aussi un couple qui se complète et qui est encore plus fort ensemble. Ensemble, on s'entraide à devenir chacun la meilleure version de soi-même et on ne s'oublie pas au passage. Cette définition peut vous sembler un brin utopiste, mais finalement, quand on est avec la bonne personne, ça coule de source. On nous montre au cinéma des passions débordantes et des personnes bancales sans le grand amour, mais on peut aussi considérer ça autrement et envisager la définition que je viens de vous proposer plutôt. Je vous propose maintenant de passer aux 7 points, 7 bases saines qui permettent de se rendre compte de si on est dans une relation constructive et bonne pour soi-même. Si ces bases ne sont pas cochées, il y a quand même fort à parier pour que la relation ne soit pas très équilibrée et parfois même qu'elle soit toxique pour vous. Et c'est parti pour la base numéro 1. Vous êtes accepté comme vous êtes. Votre partenaire n'essaye pas de vous changer. On commence déjà fort avec cette base-là. Je l'ai déjà vécu dans des précédentes relations, et c'est ce qui me permet aussi d'en parler aujourd'hui. Si quelqu'un vous dit « tu devrais être plutôt comme ci, tu devrais être plutôt comme ça », bah c'est pas normal. Vous n'avez pas besoin de changer pour plaire à quelqu'un. Si vous décidez de changer, ça doit être pour vous, parce que vous le ressentez profondément, et pas sous l'influence de quelqu'un d'autre. Mon premier copain avait une définition très arrêtée sur la notion de couple. Il me disait qu'il fallait absolument faire comme ci ou faire comme ça, etc. Mais la réalité, c'est qu'il n'y a pas de règles. et qu'au contraire, chaque couple trouve son équilibre ensemble quand les deux personnes matchent vraiment entre elles. Une personne saine à vos côtés peut vous aider à voir vos travers et à vous améliorer, mais en vous aidant avec bienveillance. Et bien souvent, c'est pas le cas. On est plutôt dans un ping-pong où chacun critique l'autre et lui dit de changer ça aussi, et où au final, en plus de ça, il ne se passe rien. Cette espèce de volonté malsaine de changer l'autre, ça vaut aussi également pour votre physique. Si vous êtes une femme, en aucun cas un homme ne doit vous imposer de vous épiler si vous n'en avez pas envie, par exemple. Vous faites ce que vous voulez de votre corps et de vos poils. Je tiens à le préciser parce que je l'ai entendu mais tellement de fois auprès de mes copines ou encore dans mes propres expériences, ces élucubrations-là, c'est non, c'est stop. L'épilation, ce n'est qu'un exemple, mais c'est valable pour absolument tout. En aucun cas, votre partenaire de vie ne doit vous imposer des choses que vous ne voulez pas, particulièrement quand ça touche à votre corps. Je rajoute également que dans le cadre d'une relation saine, vous n'avez pas à être quelqu'un d'autre ou jouer un rôle. Sur ce, on passe à la deuxième base qui est « Vous avez régulièrement du temps pour vous, du temps de plaisir ». Cette base-là, elle n'est pas évidente, parce que même dans une relation équilibrée, on peut quand même s'oublier un peu au passage si le rythme de la vie est intense. Et quand je dis « Vous avez régulièrement du temps pour vous, du temps de plaisir », je parle de n'importe quelle passion. Que cela soit d'aller regarder un match avec ses copines ou ses copains, d'aller faire du sport seul, d'aller lire dans un parc ou autre, votre partenaire n'est pas censé vous faire la tête si vous prenez du temps pour vous tout seul. Avoir des moments seuls, c'est aussi l'occasion de savourer encore plus les moments à deux. Alors n'hésitez pas à rester proche de vos envies et à avoir des activités personnelles. On est d'accord que c'est un équilibre, une fois de plus, que certains couples font beaucoup de choses ensemble, d'autres font beaucoup de choses chacun de leur côté. Ce qui compte, c'est que chacun s'y retrouve, se laisse la liberté et savoure les retrouvailles après. Je vous propose de continuer avec la base numéro 3. Vous sentez que votre amour est léger à porter. La relation n'est pas un sac de nœuds. Vous allez voir que je vais nuancer ce point, mais de manière générale, l'amour avec un grand A, si je puis dire, est un amour léger à porter. Les choses sont simples, fluides la majeure partie du temps et vous n'avez pas d'effort à fournir pour convenir à la personne. Quand je parle d'effort, je dirais qu'il y a plusieurs points à soulever. Il y a les efforts qui sont lourds, qui nous demandent de prendre sur nous, de retenir ce qu'on a à dire, ou au contraire, de déployer des efforts trop conséquents pour prendre soin de la personne. Ces efforts-là, ils ne sont pas très sains, ni pour vous, ni pour la personne avec qui vous êtes en couple. Si vous êtes sans arrêt dans des efforts pour être en couple avec quelqu'un, je ne suis pas certaine que votre relation soit bénéfique ou équilibrée. Et je vous propose d'y réfléchir. C'est le moment où je vais aussi nuancer mes propos. Car quand on avance dans une relation, on fait tout de même face à des choses qu'on aime moins chez l'autre. Et en ce sens, on va devoir faire des efforts, mais j'appellerais peut-être ça plutôt mettre de l'eau dans son vin. Vivre avec quelqu'un, ce n'est pas de tout repos. On peut chacun avoir ses humeurs, et des fois ça ne se découpille pas très bien. L'idée n'est pas de fuir en courant dès la première difficulté. Quand on tient à quelqu'un, je trouve ça normal de fournir parfois des efforts. Mais ces efforts-là, ils sont différents. C'est un gage de qualité, que la personne a une grande importance à nos yeux et qu'on est prêt à évoluer pour mieux vivre ensemble. Ces efforts-là sont positifs. C'est comme une sportive ou un sportif de haut niveau qui s'entraîne. C'est parfois dur, il ou elle doit fournir de grands efforts, mais c'est aussi pour quelque chose de beau et qui a du sens à leurs yeux. Je trouve que c'est pareil dans une relation. Nous avons perdu cette habitude. Avant, quand quelque chose était cassé, on le réparait. On le considérait avec de la valeur et on lui offrait une seconde chance, une nouvelle vie. Maintenant, quand quelque chose est cassé, on s'empresse d'aller changer dans un magasin et bien souvent, ça coûte moins cher de racheter, de changer, avec quelque chose de neuf, que de réparer la chose initiale. Malheureusement, j'ai l'impression que ça se traduit également dans nos relations aujourd'hui et que parfois, certaines personnes abandonnent des relations à la moindre difficulté. Ce qui donne lieu d'ailleurs à notre base suivante, la numéro 4. Vous avez des embrouilles dans votre couple, ce qui est totalement normal, mais vous savez gérer la situation sans vous faire de mal. Comme on vient de le dire, les broutilles, les disputes plus importantes, ou du moins les moments plus mous, c'est quasi inévitable et tellement normal. Même pour deux personnes qui s'aiment très fort, ça arrive d'être en désaccord. Mais ce qui va compter, c'est ce qu'on fait de ça. Est-ce que l'on part au quart de tour et on se traite de tout plein de noms d'oiseaux ? Ou bien, est-ce que l'on gère la situation en pesant ses mots et en essayant de ne pas faire de mal à l'autre ? Si vous êtes dans une situation où vous vous disputez avec votre partenaire et que ça ressemble à ça, Oui, de toute façon, c'est toujours pareil, t'es égoïste, tu penses jamais à moi, puis en plus, je suis sûre que tu préfères ton ex, nanana, patati, patata. Eh bien, ce genre de dispute, elle est vraiment pas productive, et vraiment pour personne, et vous pouvez très bien vous en passer. L'attitude à adopter est plutôt de faire l'aveu de ses faiblesses et de sa vulnérabilité, sans utiliser le « tu » et sortir plein de noms d'oiseaux. On pourrait plutôt penser à une version du style « je me suis sentie abandonnée quand tu as eu ce comportement, ça m'a fait vraiment mal, j'aurais besoin qu'on fasse comme ça la prochaine fois, qu'est-ce que tu en penses ?» Alors, je suis d'accord que quand on est en colère, c'est vraiment difficile, mais c'est quelque chose qui se travaille, c'est comme tout. Et on peut appeler ça de la communication non-violente aussi. Il y a beaucoup de livres sur le sujet, si ça vous intéresse, je vous conseille d'aller vous renseigner là-dessus. Et à présent, on passe à la cinquième base saine pour déterminer si on est dans une relation équilibrée. Elle est « vous vous enrichissez l'un et l'autre ». Votre volonté profonde est de grandir ensemble, d'expérimenter la vie à deux et de devenir chaque jour un petit peu meilleur. Vous sentez que votre différence vous unissent et crée une force. Vous ne cherchez pas à contrôler l'autre ou votre relation, vous acceptez les embûches, mais vous vous en servez à deux comme un tremplin évolutif et non un obstacle. Quand l'amour est au rendez-vous, vous voyez votre relation grandir, évoluer, mais également l'amour s'approfondir et s'intensifier. En une phrase, vous vous enrichissez l'un et l'autre. C'est peut-être quelque chose de tout bête, mais je vous encourage vraiment à essayer de voir si vous vous sentez grandir au quotidien auprès de votre partenaire ou non, ou si au contraire vous vous sentez régressé ou alors stagné. Et dans tous ces cas-là, l'important c'est déjà de discuter, de refaire un point sur la situation et de voir chacun les objectifs et où est-ce qu'on va avec tout ça en fait. Le point suivant peut sembler primordial et pourtant, je vois énormément de couples dans mon entourage qui sont dans ce cas-là. Donc la base saine est « vous n'êtes pas dans une relation victime-bourreau-sauveur ». Qu'est-ce que c'est que ça ? Ça s'appelle le triangle de Karpman et ça décrit une relation déséquilibrée. Ça peut être en amitié, au travail, dans toutes vos relations en fait, mais particulièrement aussi dans le couple. J'ai moi-même été dans ce genre de situation sans m'en rendre compte. Je pense qu'on y passe tous et toutes finalement. Parce que bien évidemment, quand on a le nez dedans, on ne se rend pas compte du tout, évidemment. Dans mon cas, je me mettais très régulièrement dans la position de la sauveuse, car j'aime fondamentalement aider les autres, en particulier les personnes que j'aime ou que j'apprécie. Le problème, c'est qu'au-delà d'aider les autres, ce qui est plutôt cool en soi, c'est qu'on peut très facilement se perdre. Et moi, je m'étais perdue de vue. Je ne m'occupais plus que de la personne avec qui j'étais en couple, et en aucun cas, je n'avais du temps pour moi au final. Je m'épuisais à essayer de sauver quelqu'un. Cette autre personne avait la casquette de la victime ou du bourreau, et c'est souvent la même personne qui oscille entre les deux. Entre un côté très autoritaire et très « ça doit être comme ça et je décide pour toi », et un autre côté tout sensible qui tire vers le plaintif et que tu as envie de sauver quand tu es quelqu'un d'altruiste. Ce genre de situation est tellement visible quand on voit un couple de l'extérieur, mais tellement dur à déceler quand c'est soi-même et qu'on a le nez en plein dedans. C'est pour cela qu'arrive le dernier point, qui est en fait un grand conseil que j'aimerais vous donner. Toujours essayer d'être lucide et d'avoir du recul sur sa relation. Parfois, avec le temps, on peut ne plus se rendre compte des choses, de la tournure qu'a pris une relation ou du comportement de notre partenaire. Pourtant, il faut avoir la force de prendre ce recul, de vérifier les bases saines dont on vient de se parler et de faire un point sur son propre équilibre émotionnel, physique et mental. On en est où ? Je sais à quel point c'est dur, mais je vous promets que vous méritez le meilleur. Et j'entends par là une belle relation équilibrée dans le respect et l'accomplissement des deux personnes. Il faut trouver la force de sortir d'une relation, je suis d'accord avec ça. La prise de conscience est une première étape. Ce qu'il faut, c'est aller à son rythme et accepter le processus de croissance. À tout moment, vous pouvez sortir d'une relation toxique. Ne laissez jamais personne lever la main sur vous. Si c'est le cas, trouvez la force de fuir le plus rapidement possible. Ne perdez jamais de vue votre valeur. Et tâchez de vous entourer de personnes bienveillantes autour de vous, même si ça veut dire de tout recommencer à zéro dans un autre endroit. N'oubliez pas que la première personne qui mérite votre amour, c'est vous-même. Vous, en tant qu'individu, êtes déjà merveilleux et parfait. Plus vous en serez persuadé, et plus vous attirerez à vous quelqu'un qui viendra sublimer votre quotidien et non remplir une brèche émotionnelle. Je compte sur vous pour vous aimer, car vous le méritez tellement, je vous le promets. Merci pour votre écoute, merci d'être là. Si cette chronique vous a parlé, vous a permis de nouvelles réflexions, je vous invite à me rejoindre sur mes réseaux sociaux. sur ma chaîne YouTube Diane Expérience ainsi que mon compte Instagram du même nom, Diane Expérience. N'hésitez pas à m'envoyer des messages et me parler de votre ressenti sur cette chronique. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous !